qui s'occupe de tous nos problèmes. Amen! Parce qu'il est tellement grand, tellement bon. Tellement bon. Puis quoi que ce soit que vous passez aujourd'hui, que ce soit la maladie, n'importe quoi, Dieu est plus grand, puis il va vous en délivrer. C'est sa promesse. C'est sa promesse, il est tout puissant, puis il vous aime. Vous n'êtes pas seul, il vous aime. Hallelujah! Puis un truc pour garder la joie à chaque jour, oui, c'est d'avoir notre communion avec Dieu. Mais après de dire, comme Dieu dit, d'aimer notre prochain, c'est qui je peux bénir aujourd'hui? À chaque jour, dire à qui je peux faire du bien? Et chercher quelqu'un pour rendre heureux. Et ça nous garde dans la joie. Parce que sinon, même dans notre vieille nature, on est égoïste. Mais quand on pense aux autres, la vie est belle. Et Dieu s'occupe de nos problèmes. On dit, Seigneur, tel problème, c'est trop grand, on y donne, puis s'en occupe. Alors, soyez bénis. Je suis sûre que mon mari va avoir un excellent message, comme toujours.
Amen.
Amen.
Je vais vous dire que j'ai une femme extraordinaire. Pour m'avoir enduré pendant 35 ans, il faut qu'elle soit extraordinaire. Gloire à Dieu! J'ai eu un rêve cette nuit. Je ne sais pas si je devrais le partager. C'est parce que j'ai jamais de rêve habituellement. Puis j'ai rêvé à deux choses. Puis je rêvais à Drummondville. J'ai jamais rêvé à Drummondville. Puis pour moi, c'est pas normal d'avoir ça. Mais qui rêve à Drummondville? Hein? Surtout quand tu viens de Montréal. Mais le rêve que j'ai eu, c'était en deux parties. Et l'un, c'était comme, il y avait comme sur la ville une puissance ancestrale. Puis je suis pas, bizarre. Ça fait 25 ans que je suis pasteur, puis je suis assez normal. Puis je sentais comme une oppression qui était sur la ville. Puis la deuxième rêve qui suivait celui-là, c'était comme... Tu sais, il y a des hôtels, surtout en France, on sont bien catégorisés. C'est 4 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile. Quand tu vas dans 1 étoile, là, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Mais ça peut aller jusqu'à 4 étoiles, même 5 étoiles. J'ai vu que Drummondville partait de 4 étoiles à 5 étoiles. C'est comme si le Seigneur me disait que vous allez faire une percée dans la ville par l'excellence que vous avez de l'Évangile. Je vous donne ça comme ça, là, ça arrive pas, appelez-moi pas. Ben, ça arrive, vous pouvez m'envoyer un petit cadeau, je sais pas. Ouais, ça, je vais continuer à rêver. On tourne à Éphésiens. Éphésiens, c'est un de mes chapitres favoris. Ça fait 35 ans qu'on est mariés. Alors, vous savez que quand ça fait 35 ans que tu es marié, ça veut dire que tu as plus que 35 ans. Hein? Alors, après un certain âge, tu dois prendre des lunettes pour lire. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. Aujourd'hui, on va parler sur la grâce. C'est un sujet que, ici au Québec, on a besoin de comprendre. Moi aussi, je viens d'un arrière-plan catholique. J'allais à messe aussi longtemps que mes parents m'ont forcé d'y aller. Puis après ça, j'ai arrêté comme tout bon Québécois. Il y a eu la Révolution tranquille. Puis en 76, mon épouse... En 74, ça commençait à aller très très mal entre mon épouse et moi. J'avais une bonne job, je travaillais à Shell. À 55 ans, j'étais censé de me retirer avec un salaire... par semaine, 600 piastres l'air à banque. J'avais planifié d'aller 6 mois en Floride et 6 mois au Québec durant l'été, en Floride en hiver. Puis, c'était tout planifié. J'avais 19 ans quand je suis rentré à HL. Puis, ça commençait à barder un peu entre mon épouse et moi, parce que je voulais... Tu sais c'est quoi dans le monde, hein? Alors, elle, un jour, ça allait tellement mal qu'elle s'est jetée sur le plancher à genoux, puis elle a crié à Dieu. Elle a dit, Dieu, fais quelque chose. Puis, pendant 2 ans, écoutez-moi bien, là, elle m'a persécuté. Persécuté. Je suis un martyr. Elle laissait des comics dans la toilette, chrétiens. Elle laissait la télévision chrétienne ouverte toujours. Des livres chrétiens tout partout dans la maison. Elle m'obligeait d'aller à l'église le dimanche, sinon elle me boudait toute la semaine. Un martyr, je vous dis. Puis au mois de décembre de 1976, j'écoutais une émission qui s'appelait PTL, Praise the Lord, avec Jim Baker, peut-être vous en avez entendu parler. Mais j'ai appelé en Caroline du Nord, ou du Sud, puis j'ai donné mon cœur au Seigneur. Alors, ça a été ma conversion, elle est la raison de ma conversion. Puis je remercie le Seigneur, puis je remercie ma femme aussi. Après ça, on nous a demandé, plusieurs années après, de commencer une église, dans une église italienne anglophone. Puis on a commencé, puis après ça, on a acheté notre propre bâtisse, où c'est qu'on est présentement. Alors, le Seigneur a fait de bonnes choses. Alors, lisons ensemble. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. « Autrefois, vous étiez morts. » Dites, « On était morts. » À cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle du monde. Ça dit qu'on vivait comme le monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Autrement dit, le boss qu'on avait, c'était pas Dieu, c'était le diable. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous étiez tous sous le diable? OK. Parce que si vous ne pensez pas ça, vous allez avoir de la misère avec moi aujourd'hui. Là. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Autrement dit, on était aussi rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Vous savez, au Québec, une chose que je voudrais vous dire, puis ça me revient, c'est que des fois, on ne comprend pas toujours la grâce. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas si mauvais que ça, nous autres, ici au Québec. On est, tu sais, pas bon, mais pas si pas bon que ça. On a une certaine bonté en dedans de nous autres. Puis tant que tu vas avoir cette pensée-là, tu vas avoir la difficulté avec la grâce. Puis ce matin, je vais peut-être péter des ballons religieuses. Je vais peut-être dire des choses que, ouh, moi, qu'est-ce qu'il dit là? Je vous dis la parole de Dieu. Amen? Parce que c'est notre source, c'est notre base. C'est par ça qu'on apprend à vivre. Puis, des fois, le monde met une empreinte sur notre cœur. Puis quand on vient au Seigneur, cette empreinte-là du monde reste là. Et elle doit disparaître. Et on doit être renouvelé dans nos pensées. Amen? Alors, continuons. C'est qu'on t'a rendu. Verset 3. OK. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts. On était spirituellement morts. À cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc la raison de se vanter. Amen. Alors, il n'y a personne ici qui peut se vanter qu'il est sauvé, c'est par grâce qu'on est sauvé. Dans le texte qu'on vient de voir, on pourrait utiliser trois mots qui va résumer un peu le message. Le premier, c'est « Vous étiez ». Amen. On était. Le deuxième, « Mais Dieu ». Dites « Mais Dieu ». Et le troisième, c'est « Par la foi ». Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent C.S. Lewis. C'était un écrivain. Puis, il est rentré dans un endroit où c'est que tout le monde discutait. Puis, le sujet, c'est qu'est-ce qui fait que le christianisme est différent de toutes les autres religions du monde? C'était la question qui était durant cette conférence-là. Certains des participants y ont soutenu que le christianisme est unique par l'enseignement que Dieu est devenu homme. Mais quelqu'un a amené une objection, disant que d'autres religions font la même chose. Et d'autres ont dit que c'est la résurrection. Non, d'autres croient à la résurrection des morts. La discussion commençait à chauffer. Puis d'un coup, C.S. Lewis y est arrivé. C'est un défenseur du christianisme. Il est arrivé un petit peu en retard. Puis, quand il a appris c'était quoi le sujet que tout le monde parlait, il a fait immédiatement cette remarque-là. C'est facile de savoir qu'est-ce qu'on a de différent. C'est la grâce. Le christianisme est différent des autres à cause de la grâce que Dieu nous accorde. Amen. Je pense qu'il avait raison. Le cœur même de l'Évangile, c'est la vérité suprême que Dieu nous accepte sans condition. Il nous prend tel qu'on est. Il faut le faire, hein? Il faut le faire. Les autres religions, il faut que tu travailles. Tu sais la différence entre le christianisme et la religion? Le christianisme, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Puis la religion, c'est qu'est-ce que l'homme essaie de faire pour Dieu, pour monter les échelons jusqu'à Dieu. C'est des efforts humains. Mais Christ a tout payé. Amen. C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. J'espère que quand vous allez quitter aujourd'hui, vous allez dire, regardons ça, merci Seigneur pour sa grâce. Vous allez avoir compris, je suis persuadé que vous avez des très très bons enseignements, mais c'est comme le Seigneur m'a donné une petite révélation sur la grâce. Puis c'est bon d'avoir des révélations de la part du Seigneur. Amen. Le philosophe français Blaise Pascal a dit, « Pour faire d'un homme un saint, la grâce est absolument nécessaire, et quiconque en douterait ne sait pas ce qu'est un saint ou qu'est-ce qu'un homme. » Je le répète parce que pour faire d'un homme un saint, la grâce est absolument nécessaire. Et quiconque en douterait, il ne sait pas c'est quoi un saint ou il ne sait pas c'est quoi un homme. Amen. Autrement dit, le cœur de l'homme est tortueux. Amen. Il n'y a pas grand-chose de bon en dedans de nous autres. Amen. Tu sais, ça fait 25 ans que je prêche l'Évangile, pasteur à temps plein. Puis, il y a une chose que je réalise avec le Seigneur, c'est qu'il prend bien de la place dans nos vies. Puis, je veux y en laisser de la place. Vous savez, au travers des années, les gens disent, « Oh, pasteur, tu prêches un bon message. Oh, pasteur, t'es donc bon. Oh, t'es donc fin, etc. » Puis, des fois, comme pasteur, tu reçois des compliments. Ça arrive. Hein? Puis, j'ai appris une chose. C'est que s'il y a quelque chose de bon en dedans de moi, ça vient de Dieu. Puis quand je reçois des fleurs, des compliments, à la fin de la journée, là, je les mets dans un bouquet de fleurs et je dis, Seigneur, ça t'appartient à toi. Puis je pense que c'est la manière qu'on doit vivre comme chrétien. Parce que il est tout en tout pour tout. Hein. Vous savez, dès qu'on en arrive à la fin, qu'on arrive devant le Seigneur, on va avoir peut-être certaines couronnes pour certains qui vont œuvrer dans l'œuvre puis servir le Seigneur, même si ce n'est pas à plein temps. Mais la parole nous dit que toutes les couronnes qu'on va avoir, les couronnes de justice, etc., on va les remettre à ses pieds. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils appartiennent. Fait que si vous voulez avoir du succès dans votre vie chrétienne, donnez la gloire à Dieu constamment. Vous n'aurez pas de problème. Parce que l'orgueil, ça monte vite. Amen. Fait que laisse-le au Seigneur. Pas l'orgueil, la gloire. La grâce est un des mots qui n'a pas perdu sa signification. Ça veut dire une générosité gratuite et imméritée. Quand on rend grâce pour notre nourriture, on remercie le Seigneur pour la nourriture. On est reconnaissant d'une gentillesse accomplie par une autre personne. Grâce, ça vient du latin « gratia ». C'est une faveur, avantage librement accordé. Le mot « gratis » vient de « gratia ». Paul disait que la prédication de la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Et on peut dire la même chose en ce qui concerne la grâce. Ici au Québec, je crois que si les gens ont de la difficulté avec quelque chose, c'est la grâce. Je me souviens que, au travers des années du ministère, j'ai souvent entendu des expressions comme « Oh, pour les gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, tu demandes, est-ce que tu vas aller au ciel? »« Ah, oh, certain, je vais aller au ciel. J'ai eu 12 enfants. » OK? il y a toutes sortes de raisons pourquoi que les gens peuvent mériter le ciel. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a personne qui peut monter au ciel à cause de ses œuvres. Amen. C'est pas grâce que nous sommes sauvés. Dis à ton voisin, c'est pas grâce que tu es sauvé. Quelque part, la grâce est difficile, est dure à accepter, et elle est dure à recevoir. Surtout pour des personnes un peu plus âgées. Moi, je suis très jeune encore, et mon épouse aussi, mais je parle des gens plus vieux que nous, là, OK? Pour eux autres, c'est difficile à accepter la grâce. Parce qu'ils ont tellement souffert, travaillé fort toute leur vie, que c'est comme, il y a des gens qui pensent qu'ils ont mérité le ciel. Tu parles à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puis tu leur demandes pourquoi ils vont aller au ciel, ils ont toutes sortes de bonnes raisons selon eux autres. Une des raisons, c'est que j'ai pas été si méchant que ça. C'est vrai. C'est une des réponses principales. Je suis pas si mauvais que ça. Moi, quand je regarde Hitler, quand je regarde les autres, moi, je suis bon. Hein? On a tendance à se comparer aux autres qui sont pires que nous autres. Hein? Alors, c'est très, très relatif. Quand un vendeur nous dit, « Ah, je veux pas te vendre quoi que ce soit, je veux juste te l'offrir. » On sait tout ce que ça veut dire. Puis, on se méfie tout de suite. Alors, la grâce, c'est un peu comme ça. Oui, c'est correct. Il doit y avoir un catch en arrière de ça. Il n'y a pas de catch. C'est gratuit que Dieu nous a donné sa vie. La grâce nous enseigne que Dieu l'a fait pour les autres, ce que nous ne ferions jamais pour nous autres. Nous, on sauverait peut-être les pas trop mauvais. Imaginez-vous que tu es à la place de Dieu, et c'est toi qui dois juger les gens. Je pense que si on serait là, on aurait tendance à dire, « Ah, ben lui, il n'est pas si mauvais que ça, OK, on va le rentrer. » Lui, il est vraiment pas correct, hein? Il reste à Drummondville, puis vraiment, là, OK, ça. Non, chacun aurait sa petite manière de juger les autres. Amen? Lui, il vient de Montréal. Non, no way, hein? Alors, Dieu, lui, il a commencé par les pires, puis il a continué à descendre vers le bas. La grâce, c'est un don qui coûte tout au donneur et rien au receveur. Quand tu reçois la grâce, tu n'as rien payé. C'est tout payé par celui qui l'a donné. Elle est accordée à ceux qui ne la méritent pas, qui ne la reconnaissent même pas. Souvent, on n'est même pas reconnaissant pour la grâce et on ne l'apprécie même pas. Amen. Je vais vous apporter une illustration ici qui est un petit peu peut-être difficile pour certaines personnes. Pardonnez-moi si je vous l'apporte. C'est pour que vous puissiez vraiment comprendre. Et c'est une histoire, une vraie histoire. Il s'agit d'un homme qui se nommait Jeffrey Dahmer. Il a séduit des jeunes hommes, il les a assassinés, et même dans certains cas, il les a mangés. C'est une vraie histoire, OK? C'était un perverti, un assassin et un cannibale. Après son arrestation, il a professé s'être converti et avoir mis sa foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'il a reconnu ses erreurs. Il a confessé ses péchés et il a crié à Jésus pour être sauvé. On ne saura pas tout ce qui s'est vraiment passé, parce que pas longtemps après, il était en prison, bien entendu, puis il a été battu à mort en prison. Alors, c'est l'histoire de Jeffrey Dahmer. Mais supposons que vous êtes le parent de ceux qui ont été séduits, assassinés, etc. Comment tu réagirais si Jeffrey Dahmer viendrait prêcher en avant ici? Hein? Comment tu réagirais? Il vient prêcher ici, puis il est converti. Il est né de nouveau. OK? Puis tu sais que ton garçon, peut-être une partie se trouve dans son estomac. Non, mais écoute, cannibale, c'est ça. Hein? Alors, comment tu réagirais en voyant ce personnage-là? Ça serait difficile de se contenir pour ne pas monter sur l'estrade, puis il donne une volée. Right? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK. Est-ce que la grâce existe pour Jeffrey Dahmer? Quand on pense à Jeffrey Dahmer et à la possibilité qu'il soit sauvé après les crimes odieux qu'il a commis, notre première réponse pourrait être, oui, la grâce existe, pour des aides comme Jeffrey Dahmer, right? Mais en même temps qu'on dit cela, on est en train de faire une différence entre lui et nous. Hey, c'est silencieux ici, hein, soudainement? Oh. Nous pensons à nous-mêmes, on est meilleur que lui, ou on n'est pas aussi mauvais que lui. Puis, il est évident que la plupart d'entre nous, on n'a jamais fait des choses aussi mauvaises que lui. Amen? Amen? Alors, quand on dit que la grâce existe même pour des êtres comme Jeffrey Dahmer, même si je veux bien inclure dans le cercle de ceux que Dieu peut sauver, je ne me mets pas au même niveau que Jeffrey Dahmer. Je crois que je suis meilleur que lui. D'après cette réflexion, la grâce serait donc pour des êtres affreux comme Jeffrey Dahmer, entièrement non méritants, et la grâce serait aussi pour des êtres bien moins mauvais, mais qui, eux, alors, la mériteraient. Amen? Dans ce cas, la grâce n'est plus une grâce. Car quelque part, il y aurait des êtres plus méritants que d'autres. Alors, on est tous pareils. Jeffrey Dahmer ou nous, on est tous des pécheurs perdus. Nous sommes aussi perdus que Jeffrey Dahmer. C'est pas facile à accepter, mettre Jeffrey Dahmer au même niveau que nous. Mais c'est important que vous puissiez le réaliser. Qu'on était. Amen, merci. C'est vraiment silencieux, ça. Ça nous fait réfléchir, hein? Mais ça nous aide à comprendre aussi c'est quoi la grâce. Autrement dit, regarde ton voisin et dis-lui, tu n'as jamais mérité la grâce. On n'a jamais mérité la grâce. On n'a pas été sauvé parce qu'on est moins pire que les autres. La grâce, c'est une grâce pour tout le monde. Que tu aies eu 25 enfants ou pas, tu ne méritais pas. Amen. Que tu aies travaillé toute ta vie à faire des bonnes œuvres, ça ne t'a pas sauvé. Que tu aies monté l'oratoire Saint-Joseph sur les genoux pendant 25 ans, ça ne t'a pas sauvé. Il n'y a pas de bonne action qui peut t'avoir sauvé. Tu es aussi pire selon Dieu que Jeffrey Dahmer. Tu es au même niveau que lui. Tu étais aussi perdu que lui. C'est important de saisir ça. Parce que souvent, on a des pensées qu'on n'est pas si pire que ça. On n'est pas si tant pire que ça. Les autres sont pas mal plus pires que nous autres. Puis, Dieu a fait un bon deal quand il m'a sauvé. Faites la bonne affaire. Franchement, là, je le félicite parce qu'il est pas mal sage, lui. Pas mal intelligent, Dieu. Hein? Écoutez, je viens de là. Quand j'ai accepté le Seigneur m'a appelé au ministère, puis je me voyais comme un Billy Graham. Je me voyais comme un chanteur qui chantait, comment il s'appelait? Jimmy Swagger. OK, dans le temps, là. OK. Puis, je pensais qu'aussitôt que j'ouvrirais la bouche, les gens tomberaient sous l'onction de Dieu. OK? J'étais rempli d'orgueil. L'orgueil fait partie, une grosse partie dans nos cœurs. Amen? Puis, c'est important de dire, écoute, Seigneur, je m'humilie. Puis, j'ai tout perdu cet orgueil-là, puis, gloire à Dieu. OK? Puis, merci ma sœur. Puis, je suis content. J'étais pour dire, je suis content de mon humilité, mais c'est pas ça que je veux dire. Je suis content de reconnaître ma place, de reconnaître sa place. Amen. C'est par grâce que je suis sauvé. Puis je peux vous dire que je ne méritais pas. Peut-être j'ai pensé un jour que Dieu a fait un bon deal avec moi. Hein? Mais ça n'a pas pris de temps que je pète ma balloune. Parce que ça ne marche pas comme ça. Dieu est vraiment, vraiment une classe à part. On n'approche même pas. OK? On est des créations. Il est le Créateur. Amen. C'est pas la même chose pour tous. Si tu connais un peu l'univers, comment ça fonctionne, les désastres, les, en tout cas tout ça, c'est tellement grand, tellement immense, que je peux même pas m'arrêter à ça. Écoute, je vais te donner juste une petite pensée. Essaye de comprendre comment que Dieu a toujours existé. Qu'il n'y a pas eu de commencement. Moi, dans ma compréhension, je suis très, très limité. OK? Comme la plupart d'entre nous. On ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est juste, comment que trois personnes en une? Hein? Il y a tellement de mystères qu'on ne comprend pas. On peut avoir une petite nuance, mais qu'on ne saisit pas pleinement. Puis ça, c'est même pas une parcelle de qu'est-ce que Dieu est. Fait que, tout à l'heure, on va être transformé, on va être renouvelé, on va avoir un nouveau corps. Gloire à Dieu, on va comprendre. Mais sur la terre, on ne comprend pas grand-chose. Puis même la grâce, des fois, on a de la difficulté. Parce qu'on pense qu'on la mérite jusqu'à un certain point. Que Dieu a fait un bon deal quand il nous a embarqués dans son bateau. Mais ça ne marche pas de même. OK? Il faut comprendre qu'on était des pécheurs. Amen? Est-ce que tu te souviens de cette prière? « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, hein? Ou comme ce Jeffrey Dahmer. » C'est vrai que les pharisiens n'étaient pas comme Jeffrey Dahmer, mais ils n'étaient pas sauvés non plus. Tandis que le collecteur des taxes, le publicain, un homme haï, est rentré chez lui justifié. Parce qu'il a dit, « Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. » Je pense que c'est bon de dire au Seigneur, « Pardonne-moi, Seigneur. » D'ailleurs, il y a un passage qui est un peu un de mes passages favoris. C'est 1 Jean 1,9, qui dit, « Si tu confesses tes péchés à Dieu, il est juste et bon pour les pardonner. » Amen. Ça, j'en ai besoin tous les jours, quasiment. « Seigneur, je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon pour ci. Seigneur, je te demande pardon. » Puis je me sens tellement bien. Parce que c'est ça, la grâce. Je suis... On est des pécheurs rachetés. Amen. On est une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Mais il y a comme Mr. Hyde et Dr. Pickle. Hein? On est un peu comme ça. Des fois, le bon sort, des fois, le mauvais sort. Puis quand il y a le mauvais sort, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Amen. Puis on va se rendre jusqu'au bout comme ça. Parce qu'on ne sera jamais parfait sur la terre. Amen. Oui, on est saint. Dieu nous voit comme sa justice. Gloire à Dieu. Mais c'est comme, jusqu'à temps qu'on soit rendu au bout, on va toujours avoir des combats. On appelle ça le combat de la foi. Amen. Alors, Jésus n'est pas venu sauver des demi-pécheurs, des pécheurs partiels ou des pécheurs pas trop mauvais. Ça peut nous donner l'impression qu'on peut mériter sa grâce. C'est nous qui faisons une différence entre les pécheurs. Il y a des gens qui pensent que les grands pécheurs sont au fond de l'enfer, puis les autres sont à côté de l'air climatisé. Tu ris, hein? Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. « Oh, lui, là, je te dis, il va aller dans le fond de l'enfer. Puis, ça va chauffer. Puis l'autre, il va être à côté de l'air climatisé. » C'est pas tout à fait ça, OK? Mais Dieu, depuis le ciel, nous voit tous dans le même bateau. Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché. Amen. Luc 5, 32, « Je ne suis pas appelé les justes à la repentance, mais les pécheurs. » Alors, s'il n'est pas venu chercher des pécheurs, qu'est-ce qui arrive aux autres? Amen. Les autres n'existent pas, car il n'y a pas de juste. Et si quelqu'un se croit juste, il va rester perdu avec sa justice propre. Alors, pourquoi qu'on a besoin de la grâce de Dieu? Le texte nous dit, « Vous étiez morts dans vos péchés. » Nous avons besoin de la grâce de Dieu parce que tous les hommes, et les femmes bien entendu, sont par nature morts spirituellement et séparés de Dieu. On est séparés de Dieu. L'homme normal, il est séparé de Dieu. Quand Dieu regarde du ciel, le monde entier ressemble à un cimetière. Tout ce qu'il voit sur la terre, c'est des morts. Au-dessus de chaque cadavre, il y a des mots « mort à cause du péché ». Dans quel sens les humains sont morts, puisqu'ils sont vivants? À cause du péché, on est séparé de Dieu, incapable de connaître Dieu par nous-mêmes, et on ne peut rien à propos de ça. En plus, on est mort et on ne savait même pas. Veux-tu faire la preuve? Va voir les gens sur la rue. « Hey, t'es-tu mort? » Tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te répondre. Hey, t'es mort, toi! Hein? Je pense que tu ne seras pas bienvenu. Amen. Quand Dieu regarde du haut du ciel, il voit le monde comme un vaste cimetière rempli de morts vivants. Les incroyants paraissent être vivants, ils rient, ils parlent fort, ils ont des plans, ils se marient, rêvent du futur, et un jour, ils meurent. Mais ils sont morts, même s'ils sont vivants. On a la vie à l'intérieur de chacun d'entre nous. Amen. Cette vie-là se communique. Ils ne sont pas obligés de rester morts. Être mort, c'est une situation sans espoir. C'est vrai de tout le monde, sans exception. On était mort. Amen. Est-ce qu'on peut répéter « on était mort » Est-ce qu'on peut mettre ça plus personnel? J'étais mort. Sans la grâce, nous sommes nés morts. Quand Dieu sauve quelqu'un, c'est une personne morte qu'il rencontre. Dieu a tellement aimé le monde qu'il leur offre la grâce. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, au verset 4, nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Je répète, mais Dieu qui est riche en miséricorde, tu sais, miséricorde, c'est celui qui est dans la misère puis tu lui donnes une corde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Mais par grâce qu'on est sauvé. Est-ce qu'on commence à comprendre c'est quoi la grâce maintenant? C'est quelque chose qu'on ne méritait pas. C'est Dieu qui nous l'a donné. Gloire à Dieu. Notre salut est suspendu à ces mots. Mais Dieu. Nous étions morts, mais Dieu. Nous étions esclaves, mais Dieu. Nous nous détruisions nous-mêmes, mais Dieu. Nous étions perdus dans le péché, mais Dieu. Tu peux souligner les trois mots si tu veux, ok? Miséricorde, amour, grâce. Miséricorde, amour, grâce. Est-ce qu'on peut y réfléchir quelques instants? Avant d'être sauvé, on était perdu. Est-ce que des gens ici, non, je vous pose pas la question là parce que j'ai peur des réponses. Mais est-ce qu'il y en a qui pensent, puis dites-le pas si vous le pensez, que vous avez été sauvé parce que vous n'étiez pas si pire que ça, puis finalement, bien, vous vouliez faire plaisir au pasteur, puis vous êtes venu à l'église, puis vous allez continuer à venir à l'église. Ou est-ce que vous réalisez que vous étiez perdu, complètement, séparé de Dieu, et Dieu est venu par sa grâce. Et par grâce, vous êtes sauvé. Personnellement, je peux vous dire que c'est par grâce que je suis sauvé. Puis il faut saisir cette vérité-là. Qu'on n'a rien fait de bon. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Autrement dit, pour que j'arrive un jour à être sauvé, c'est Dieu qui a permis. Même, je dirais, c'est Dieu qui m'a mis l'appel dans mon cœur de venir vers lui. Vous savez, Ecclésiastes 7,14 nous dit que la pensée de l'éternité est dans nos cœurs. C'est comme il y a un aimant. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Amen. C'est comme Dieu, c'est comme un aimant, puis il nous attire. Dieu veut que tous soient sauvés. Alors, la seule chose qui nous empêche, c'est notre refus à venir à lui. Autrement dit, s'il n'y aura pas d'aimant ici de la part de Dieu, une illustration que je vous donne, c'est qu'on ne sera pas attiré vers Dieu. Mais tout homme, jusqu'à un certain point, est attiré par Dieu. C'est comme si c'est son entêtement, sa rébellion, qui l'empêche de venir. Tu sais, aujourd'hui, il y a plusieurs témoignages qui nous viennent de l'Asie. Puis il y a des musulmans dans des villages retirés bien, bien loin qui se convertissent des villages complets. Parce que Jésus, il apparaît dans les villages. Dieu fait des choses extraordinaires. Ici, au Québec, on est comme dans une bulle. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Empower. Puis on aide les Indiens. J'étais prêché hier, au mois de février en Inde à 250 pasteurs. Puis l'organisation, ça fait 9 ans qu'elle existe et en 9 ans, il y a 35 000 personnes qui sont venues au Seigneur. 35 000 personnes. Les 250 pasteurs qui étaient là quand on a prêché, il y en a là-dedans qui ont vu des résurrections. il n'a que un qu'il a été dans un village pour évangéliser, puis le chef du village il dit « No way, toi tu sors d'ici ». Puis finalement, la journée qu'il a dit ça au pasteur de ne pas revenir, la mort s'est installée sur le village. Deux personnes ou trois personnes mouraient tous les jours. Alors le chef a demandé aux sorciers de faire des incantations, toutes sortes de gris-gris, puis des choses comme ça, puis il n'y a rien qui se passait. Puis là, il y a eu une intuition. Je suis persuadé que c'est le Saint-Esprit qui parle à son cœur. Il dit « Appelle donc le pasteur ». Finalement, le pasteur il est venu, puis la mort a complètement arrêté instantanément. Puis tout le village s'est converti. Là-bas, si tu prêches l'Évangile, puis tu amènes quelqu'un au Seigneur, il y a des lois qu'on appelle anti-conversion. C'est 3 ans de prison. OK? Quand j'étais là-bas, je ne pouvais même pas dire que j'étais pasteur. J'allais visiter le Taj Mahal, puis toutes les choses comme ça, sans ça. Je ne rentrais même pas dans le pays. Ça, c'est vraiment des bouddhistes anti-chrétiens complètement. Dans le nord de l'Inde, je ne parle pas du sud, là. Le sud, c'est plus chrétien, mais dans le nord, c'est la persécution là-bas. Encore dernièrement, c'est toujours des persécutions. Ils ont fait un ralliement chrétien, puis les hindous, ils ont été voir la mère, le chef de la police, pour tout arrêter ça. Mais Dieu est en train de faire un œuvre là-bas. Puis Dieu essaie d'attirer les gens par sa grâce. Alors, c'est juste quand les gens refusent. Puis, merci Seigneur pour sa grâce. Parce qu'il n'y a pas personne ici qui aurait été sauvé. Ça aurait été pas la grâce et la bonté de Dieu. Amen. Miséricorde, amour et grâce. Ces trois mots sont la réponse de Dieu à l'état désespéré de l'humanité. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons, le jugement. La grâce, c'est quand Dieu nous traite selon ce que nous ne méritons pas, le salut. Amen. Alors, par quel moyen recevons-nous la grâce de Dieu? Le texte dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Alors, comment la grâce est communiquée au cœur humain? Ce n'est pas par les œuvres, ni par la religion. Le moyen que Dieu utilise, c'est la foi. Ça, des fois, c'est difficile à comprendre, par la foi. On voudrait que ça soit cuit comme un œuf. C'est par la foi. La foi, c'est... On connaît tous l'Hébreu 11.1, c'est la ferme la foi, c'est la ferme assurance des choses que tu espères, la démonstration de ce que tu ne vas pas. Merci. Alors, on pense que la foi, c'est quelque chose de mystique. Non, la foi, c'est... Il faut que tu y crois. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer ce matin? La grâce, c'est Dieu qui l'a faite. C'est pas toi qui t'es sauvé. Dieu t'a sauvé parce que tu l'as accepté par la foi. Dieu, on ne le voit pas. On ne sait pas où c'est qui est. Amen. La manière de communiquer avec Dieu, c'est par la foi. J'aimerais ça serait d'autres choses. J'aimerais ça serait des œuvres, que je fasse des œuvres. Comprends-tu? J'aimerais ça pouvoir le payer. J'aimerais ça. Dieu, il dit, ça ne marche pas. Il dit, c'est par la foi. J'aimerais ça que quand je prie pour les malades, ça soit autrement que par la foi que je puisse lui donner une claque puis il est guéri. Dieu dit non, c'est pas des claques, c'est par la foi. C'est par la foi qu'on atteint le trône de Dieu. Amen. Alors, si vous êtes ici ce matin pour vous êtes né de nouveau, c'est parce que vous avez un morceau de foi en dedans de vous. C'est par la grâce que tu es sauvé. Le moyen de la foi. On a 3 mots importants ici. Grâce, foi et sauvé. Grâce, foi et sauvé. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est le réservoir. La foi, c'est le canal. Et le salut, c'est le résultat d'accepter la grâce par la foi. La grâce, c'est le réservoir. La foi, c'est le canal. Et le salut, c'est le résultat d'accepter la grâce par la foi. Notre salut, il est un petit peu extraterrestre. Il devait venir du ciel sur la terre. Il n'y avait aucune possibilité. On n'est pas sauvé par qu'est-ce qu'on a fait, mais par ce que Jésus a fait pour nous. La parole de Dieu est claire. Les hommes sont morts, Dieu descend du ciel pour nous donner la vie. Amen. Je suis persuadé qu'au ciel, on n'entendra pas les gens dire « Ah ben moi, j'ai donné 100 000 $ ». Un autre dit « J'ai donné 1 000 000 $ ». Un autre dit « J'ai donné, ah, moi j'ai donné 10 millions, puis tasse-toi de là ». Ça ne marchera pas de même. Heureusement que ce n'est pas comme ça. Quand Jésus est mort sur la croix, il a payé la totalité du prix. de notre rachat. D'un côté, il y a le Sauveur, et de l'autre côté, il y a tous les morts que Dieu veut sauver. D'un côté, hein, le Sauveur, de l'autre côté, tous les gens que Dieu veut sauver. Puis Jésus, c'est le pont entre les deux. Amen. Il est mort pour nous autres. Puis il n'y a pas des grands pécheurs, puis il n'y a pas des petits pécheurs. On est tous pécheurs pareils. L'homme doit reconnaître qu'il est perdu et accepter Jésus comme sauveur. Au ciel, il n'y a pas de place ou de gens ou de compétition pour savoir qui a mérité la grâce de Dieu. La Bible a dit, nous étions morts. On va terminer avec une illustration aussi, puis après ça, on va prier. Quand Billy Graham roulait dans une petite ville du sud, il a été arrêté par les polices, puis il a été chargé pour vitesse. Puis, il a comparu devant le juge, puis le juge ne savait pas que c'était Billy Graham. Il dit, monsieur, il dit, vous avez été 10 000 à l'heure de trop vite, alors vous chargez une pièce par 1 000 à l'heure que vous avez été, alors c'est 10 pièces. Quand il a dit ça, il a vu que c'était Billy Graham. Il dit, monsieur, Billy Graham, ah, je ne savais pas si c'était vous, mais étant donné que je vous ai condamné à 10 $ on doit payer 10 $ Alors, je vais payer le 10 $ moi-même de ma poche, puis venez, on s'en va manger au restaurant. Puis Billy Graham, il dit, c'est ça la grâce. Amen. On était coupable. Quelqu'un d'autre a payé pour nous autres. Puis un beau steak après ça. C'est ça la grâce. Amen. C'est ça la grâce. C'est merveilleux. Tournez avec moi dans Luc 7. Luc, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le Nouveau Testament. Luc 7:41. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il a remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans la maison, tu ne m'as pas apporté de l'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés lui seront pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner, mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités disent en eux-mêmes, qui donc cet homme qui ose pardonner le péché? Mais Jésus dit à la femme, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix. Maintenant, je vais vous parler. On peut se descendre ici, oui? Il y a une trappe là-bas. Il y avait deux personnes. Il y en a un qui devait 500 deniers, l'autre 50. Un que il était vraiment reconnaissant envers son débiteur parce qu'il a été pardonné de beaucoup. Puis l'autre, juste 50. Fait que, plus tard. Tu sais, c'est pas si pire que ça. Je méritais d'être pardonné, juste 50 deniers. Hein? Peux-tu poser une question? Dans quelle catégorie que vous vous placez? Est-ce que vous vous placez dans celui qui devait 500 deniers ou 50 deniers? Ça vous... Répondez pas, s'il vous plaît. Savez-vous qu'on peut savoir dans quelle catégorie que on est, par notre amour du service envers Jésus-Christ.
Oui?
Il y a un passage qui nous dit dans Corinthiens, « Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Même ça nous dit, une version plus moderne, « qu'ils ne vivent plus pour la petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors, d'une manière, il y a des gens qui ont été pardonnés beaucoup, puis d'autres qui n'ont été quasiment pas pardonnés. Est-ce que Jésus vous a pardonné beaucoup? Est-ce que vous étiez juste une bonne personne puis a fait un bon deal quand il vous a rentré dans le royaume? Ou vous êtes tous au même niveau, la manière que Jésus nous voit, qu'on était perdus sans lui? Vous savez, la manière que vous allez servir le Seigneur, soit dans l'Église, soit témoigner, soit juste aimer Dieu, lire ta Bible, ça démontre qu'est-ce que tu y devais. Si quelqu'un te sauve la vie, possiblement, tu vas y penser à cette personne-là quasiment toute ta vie. Tu vas penser au moment que tu es en train de te noyer, puis il a fait peut-être 100 mètres pour aller te chercher, puis il a risqué sa vie pour toi, puis tu vas dire, waouh, cette personne-là là, a eu du courage, a été bonne envers moi. C'est extraordinaire, je ne l'oublierai jamais. Puis quand on vient au Seigneur, on se dit, waouh, sais-tu, Jésus, il a fait un bon deal avec moi, hein? Où est-ce qu'on est capable d'être reconnaissant? Puis dire, Seigneur, je reconnais tellement qu'est-ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir aimé parce que j'étais perdu. Sans toi, Seigneur, j'allais passer l'éternité en enfer. Merci, Seigneur, que tu t'es révélé à moi. Est-ce qu'on est conscient du prix que Jésus a payé puis de qu'est-ce qu'il nous a donné en retour? De rien, parce qu'on n'a rien fait. Amen. J'aimerais faire deux appels ce matin, rapidement. La première, c'est, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais accepté Jésus dans son cœur? Puis, après, écoute, le message que j'ai prêché ce matin, c'est en deux parties. Hein? Le premier, c'est pour quelqu'un qui pense qu'il était sauvé par lui-même, par ses bonnes œuvres. Puis si tu n'as pas compris que tu es sauvé par grâce ce matin, il n'y a rien d'autre que je peux faire. Il faudrait qu'on jeûne pour toi, puis etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus et qui dit, moi, je veux être sauvé par grâce? Qui lève sa main ce matin, puis on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas Jésus? Amen. Qui dit, moi, je veux accepter Jésus dans mon cœur. Quand je fais un appel, je ne suis jamais pressé. Absolument, c'est toujours les 50 premiers qui sont plus durs à lever la main. Les autres, ils suivent après. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus? Demande à ton voisin, « Hey, si tu mourrais aujourd'hui, est-ce que tu irais au ciel? » Puis, m'en dis pourquoi. S'il dit, « Ah, c'est parce que j'ai eu 12 enfants, amène-le avec toi en avant. » Demande à ton voisin, « Est-ce que Jésus est dans ton cœur? » Si tu n'es pas sûr, amène-le en avant, on va prier ensemble. Amen. Jésus, c'est son sauveur? Are you saved? Amen. I know, but I can ask you. Okay. Amen. OK. Alors, j'imagine que tout le monde connaît Jésus ici. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez même venir me voir après, puis on va prier. Maintenant, je m'adresser aux chrétiens. Est-ce que Jésus, il t'a remis 50 deniers ou est-ce qu'il t'a remis 500 deniers? J'aimerais faire un appel ce matin, on ne priera pas pour les gens en avant, juste à votre place. Est-ce qu'il y en a ici qui réalisait que peut-être il pensait que la grâce était cheap un peu? Puis ils ont vécu une vie chrétienne cheap. Ils ont chauffé les bancs de l'église le dimanche, puis c'est beau, on est content avec ça. Ou qu'on réalise l'amour de Dieu envers nous, le prix que Jésus a payé, puis notre reconnaissance envers lui qui n'était pas ou elle n'est pas qu'est-ce qu'elle devrait être. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont comme ça, qui disent, « Il me semble que je pourrais en faire plus pour le Seigneur. » Lève ta main. Amen. Même levez-vous, s'il vous plaît, si c'est votre cas. Gloire à Dieu. Amen. Bien du monde qui se lève, en tout cas. Merci, Seigneur. Merci pour votre courage. Ça fait 25 ans que je suis pasteur. Puis en 25 ans, j'ai vu que souvent, quand on fait des appels, on se lève, on se rassied, c'est fini. Mais je ne fais pas un appel ce matin pour que vous leviez, assoyez, puis fini. Si je vous appelle en avance, ça, c'est merveilleux, mais je pense que la vie chrétienne, c'est entre nous et Jésus. Amen. J'aimerais que vous puissiez prendre un temps aussi que vous êtes là, à rentrer dans votre intérieur, comme la parole dit, aller dans un petit endroit tranquille, votre intérieur. Puis dire, Seigneur, je te demande pardon. Pour avoir pris cette grâce-là, vraiment, Seigneur, comme acquis. Pour avoir, Seigneur, vécu une, peut-être d'une manière superficielle, en ne réalisant pas, Seigneur, tout qu'est-ce que tu as fait pour moi. Seigneur, j'étais aussi perdu que Jeffrey Dahmer. Moi, je pensais que j'étais une bonne personne. Mais ce matin, Seigneur, au travers du message que j'ai entendu, Seigneur, tu m'as convaincu par ton esprit que ton amour est tellement grand, tellement merveilleuse. Et je viens de saisir ce matin. Seigneur, je veux te donner mon cœur, vraiment, Seigneur, pas, sois pas juste le sauveur de mon âme, mais le Seigneur de ma vie. Tu nous enseignes dans ta parole, Seigneur, au travers des passages comme Paul serviteur. En réalité, c'est Paul esclave de Christ. Seigneur, je te demande pardon que bien des fois, je t'ai utilisé comme quand ça faisait mon affaire. Je t'appelais pour que tu puisses faire telle ou telle chose pour moi, puis j'ai réalisé que c'est moi qui étais plutôt dans le siège du chauffeur que toi, Seigneur. Je te demande pardon ce matin et je veux que, Seigneur, que tu prennes le volant, Seigneur. Que tu puisses être assis sur le trône de mon cœur. Je veux écouter ce que tu me demandes de faire, Seigneur. Je veux lire ta parole pour comprendre, Seigneur, toutes les choses dans lesquelles tu m'as appelé à marcher, à te servir. Je demande pardon, Seigneur, pour avoir pris ma vie chrétienne tellement légèrement, Seigneur. Ce matin, je veux me redonner à toi, Seigneur. Je veux vraiment que tu me saisisses, Seigneur, et que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu me remplisses de la plénitude de ta vie, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, de partager à mes amis, à mes voisins, mes copains de travail, qu'est-ce que tu as fait pour moi, parce que je le réalise ce matin, qu'est-ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Que ce n'est pas été juste une nouvelle religion que j'ai acceptée quand que je suis venu te rencontrer, mais c'est un sauveur, c'est un Seigneur qui redirige ma vie. Parce que je réalise que la repentance a deux volets. Celui de d'être convaincu de péché et celui de changer de voie. Et peut-être, Seigneur, j'ai pas vraiment vécu cette repentance-là, mais j'ai juste fait ce que ça me tentait de faire. Ce matin, je te demande de vraiment, Seigneur, me convaincre de la réalité de mon être, de qu'est-ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je veux m'engager ce matin à changer de voie totalement, Seigneur. À changer de direction, Seigneur. À te servir, Seigneur. À marcher en nouveauté de vie. comme les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je n'ai pas été juste touché, Seigneur, mais je suis maintenant transformé par ton amour, par ta grâce, par tout ce que tu as fait pour moi. Je te remercie au nom de Jésus-Christ. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.